Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Si j'étais un chanteur des Black Eyed Peas, je chanterais probablement I got a feeling that it's gonna be a beautiful night ou un truc du genre, non?
It's gonna be a good night.
It's gonna be a good night.
Est-ce que tu te déhancherais comme eux? Comme là, moi, je suis un peu restée sur cette image-là.
Mais en même temps, ouais, non, je me déhancherais pas parce qu'en même temps, j'ai l'impression que je vais me faire cuisiner puis que ça sera pas une si belle veillée que ça avec le quiz qui s'en vient à la fin de l'émission.
Je vois pas à quoi... Qu'est-ce qui te fait penser à ça, mon cher Simon? Mais effectivement, je me suis dit, t'as fait un quiz qui te ressemblait peut-être avec tes intérêts. Ben, j'ai fait un quiz avec mes propres intérêts aussi pour voir si on avait peut-être cet intérêt commun-là. Et je garde le mystère autour de mon quiz.
OK. Ben, bienvenue, l'ami Cathy. Et bienvenue, vous autres aussi, mesdames, messieurs, qui êtes là pour écouter l'émission « Peut contenir des infos ». Parce que j'ai pas le feeling que ça va aller si bien que ça, finalement. Tu sais, c'est une blague, mon affaire.
Ça va bien aller jusqu'au quatrième bloc de l'émission.
On va voir ça tantôt. C'est une émission bien chargée cette semaine.
Oui, on a de la belle visite.
Ben oui, on va avoir de la visite. On aura entre autres dans le deuxième bloc quelqu'un qui a un long historique, on va dire, dans le domaine de la musique.
Oui, tout à fait. C'est Marc Lalonde qui va recevoir en fait le prix bâtisseur Paul Demers au prochain gala célébration APCM. C'est pour son apport en fait inestimable à la promotion de la musique franco-canadienne parce que, bon, ça fait des années, je dirais presque toute ma vie, qu'il fait la promotion de la musique canadienne-française. Alors, c'est important ce qu'il a fait pour ça.
On aura également l'occasion de parler un petit peu plus tard dans le troisième bloc avec une journaliste de Franco-Presse. On l'a reçue à quelques occasions, à quelques reprises dans l'émission. Elle s'appelle Marianne Despelletot et elle est allée au chevet, si je peux dire, de nos musées.
Oui, parce que on a beaucoup de musées, des gros, des petits, des moyens. Puis le portrait est un peu saisissant, je dirais.
Ah, j'aime ça. La manière que tu... Ouais, saisissant, je pense que c'est le mot exact. Et pour revenir justement à ce quiz qui me fait dire que ce sera pas si merveilleux que ça comme soirée, I got a feeling que ça sera pas si extraordinaire que ça. Le quatrième bloc qui sera donc consacré à ce quiz là que tu m'as préparé et qui va parler de quoi cette semaine?
Et ce sera un quiz New Country, Simon.
Oh,
connais-tu ton boy. New Country? Je suis une grande fan de New Country, de country de tous les genres. On a
c'est
beaucoup
vrai?
D'émissions ouais, dans nos radios partenaires. Ouais. J'aime beaucoup ça. Moi, quand je vais au Nouveau-Brunswick, là, j'en ai pour mon argent.
Oui, hein, il y en a du country par là-bas. Ouais.
Et de tous les genres. Fait que je me suis dit, hey, je pourrais partager ma passion avec Simon du New Country.
Le New Country, en ce qui me concerne, ça se résume à peu près à genre du Billy Ray Cyrus puis du Shania Twain. Donc, c'est du nuts au New Country. Tu comprends ce que
ouais,
je veux dire?
Oui, ça trahit ton âge country un peu.
C'est ça, exactement. Ça fait que tu risques d'avoir bien du fun à me regarder aller.
Oui, mais en même temps, je l'ai quand même bâti pour que tu aies okay. quelques bonnes réponses. T'sais, je veux pas okay. que tu aies zéro quand même parce qu'après ça, on peut pas commencer à se détruire de quiz en quiz.
Ben non.
Mais je suis allée avec des artistes aussi que j'aimais puis que peut-être je voulais te faire découvrir.
OK, alors ça sera dans le quatrième bloc tout à l'heure. D'abord, pour commencer, de quoi tu veux nous parler? Tu m'as dit tantôt de quelque chose d'un peu spécial.
Oui, une chronique nécrologique.
Ah ouais.
On dit adieu à quelque chose.
Ah oui, à quoi?
On va dire adieu à Skype.
Savais-tu ah oui?
que Skype a fermé officiellement le 5 mai dernier?
Ben oui, Skype, c'est cette espèce de bidule là, pour faire des appels, puis des visioconférences, puis tout ça. Là.
Oui, bien en fait, c'était le précurseur. C'était le premier. Skype remonte à 2003. Et comme pour vrai, ça nous vieillit un peu, 22 ans. En 2003, les gens qui sont nés en 2003 aujourd'hui ont 22 ans. Fait que là, pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, ben on pogne un petit coup de vieux, c'est correct. Mais vraiment, c'était le précurseur Skype de toutes les applications là, qu'on peut connaître aujourd'hui. Puis je vous ai un peu fait une espèce d'histoire, tu sais, comme ça va bien la montée, l'apogée, le déclin
okay.
de cette histoire-là.
OK, ah, c'est le fun ça. Ouais. Vas-y.
Parfait. Bon, début. Donc, les débuts de Skype, ça commence en 2003. Donc, c'est... en fait, je vous rappelle qu'à l'époque, ça coûtait quand même assez cher faire des appels internationaux si on avait de la famille à l'extérieur ou peu importe. Donc, c'est deux entrepreneurs scandinaves, Niklas Denström et Zanus Fritz. J'espère que mon scandinave est bon.
Impressionnant.
Qui ont lancé Skype. Je me suis pratiquée un petit peu avant la chronique. Donc, c'était un logiciel complètement gratuit pour faire des appels audio via Internet. Ça a complètement révolutionné le monde. Deux ans plus tard, en 2005, on a introduit les appels vidéo. Et là, c'était complètement de la nouveauté. On pouvait enfin parler à grand-maman qui était un peu plus loin ou à la famille qui était éloignée. Ou encore à des amis qu'on s'était fait des fois en voyage puis que là, on pouvait rencontrer par Skype. Ensuite, l'âge d'or, comme je vous disais, l'apogée de l'histoire de Skype, c'est en 2011 quand Microsoft l'a racheté pour, attention, 8,5 milliards.
Wow!
En 2011. C'est beaucoup, beaucoup de bidou, mon ami.
Énormément d'argent.
Donc là, c'est à son apogée. En 2016, Skype, on est à environ 300 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme pour faire des appels de toutes sortes. Et là, ben, on a tous fait des appels familiaux, des appels des fois même professionnels pour des entrevues. Quand c'était dans d'autres régions, oui. Ben là, on était sur Skype puis on faisait nos entrevues.
Ben oui.
Chapitre 3. Le déclin, Simon. Comment, qu'est-ce qui a fait que Skype n'a pas survécu à toutes ces belles années-là? En fait, c'est la technologie qui évolue trop rapidement. On le sait comment que c'est. Hein?
Ah,
donc,
ben
des
oui.
fois, il y a quelque chose de nouveau une journée. Le lendemain, ben, ça a été modifié. Ça va très, 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 très vite, la technologie. Donc, l'arrivée de concurrents comme WhatsApp, FaceTime, Zoom et Discord aussi ont fait que, bon, les alternatives étaient plus modernes, c'était plus intéressant, l'interface était plus attrayante un peu pour les utilisateurs. Donc, tranquillement, pas vite, on a décidé de délaisser Skype pour ces nouvelles plateformes-là. Et là, la transition, parce que c'est quand même un peu la fin là, de Skype, c'est fini, depuis le 5 mai.
OK.
C'est pas tout à fait fini parce qu'en fait, on a transféré ça vers Microsoft Teams.
Oui.
Parce que je te rappelle que ça avait été acheté par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars.
C'est ça.
Voilà, fait que là, dans le fond, ce que Microsoft a décidé de faire, bien, comme on n'était plus sur Skype, ça fonctionnait un peu moins. C'était moins attrayant, puis on ne réussissait pas à tirer notre épingle du jeu avec les différents compétiteurs. On a décidé de mettre tous nos œufs un peu dans le même panier qui est Microsoft Teams. Puis on est en train d'en faire une version aussi qui est il n'est pas juste professionnel parce qu'on le connaît pour le travail, Teams, mais maintenant, ça devient aussi un peu plus personnel, que ce soit avec la famille, les amis. Fait que c'est un peu ce qui se passe là, de ce côté-là. Donc, si jamais vous vous dites « Hey, je pourrais bien faire Skype, ça fait longtemps, trop tard », c'est fini.
En clair, Pepper, il s'est fait un petit peu pousser dans le derrière par les plus jeunes.
C'est ça, exactement.
Ça.
Il s'est fait pousser vers la retraite.
Mais c'est le propre, je pense, de pas mal de logiciels dans le domaine informatique ou enfin de sites web et tout ça. Vous rappelez-vous, entre autres, de MySpace?
Oh, mon Dieu,
à quel
oui.
point c'était the site web à une mm-hmm. certaine époque. Comme tous les artistes ou à peu près avaient un MySpace, puis essayent de trouver du monde sur MySpace aujourd'hui. Ça existe encore, mais c'est oui. comme, c'est plus ce que c'était maintenant.
Ou même avant Facebook, est-ce que tu as connu le fameux Do You Look Good?
Oh,
qui était genre cette espèce de vieille application orange.
Ouais, écoute,
c'était tout un autre contexte, mais quand même, ça a pris ces espèces d'applications-là ou ces choses qui ont moins bien marché ou qui étaient questionnables en parlant de Do You Look Good pour pouvoir avoir des choses qui sont un peu plus intéressantes aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va peut-être réussir à surpasser Facebook, Instagram? Penses-tu que ça va arriver?
Bon, moi, je pense que oui.
Ah, ouais?
Oui. À un moment donné, il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle forme ça va prendre exactement, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on va se lasser un petit peu de ça. Moi-même, je commence à me lancer des réseaux sociaux. Je vais être bien honnête, là.
Mais oui, ben, je te l'accorde aussi. Puis, à un moment donné, avec l'algorithme, en fait, ça fait qu'on voit toujours les mêmes choses. Ouais. Ça devient un peu plate. Fait qu'on est mieux d'aller jouer dehors puis faire autre chose. Mais je te l'accorde. Moi aussi, l'importance des réseaux sociaux n'est plus la même. Puis, je pense que ça pourrait faire du bien aussi à tout le monde, là, des fois, délaisser certaines choses.
Ben alors, bye-bye, Skype. Bye-bye.
Ouais, bye-bye. Bye-bye. Il fait des beaux dodos.
Il y a des successeurs.
Oui, c'est ça.
Je vais vous parler de quelque chose qu'on sous-estime.
OK. Ma capacité de répondre à tes quiz?
Il y a ça entre autres choses, mais on passe à côté dans un Dollarama ou encore dans un Toys R Us.
Oui.
Puis je trouve qu'on les néglige beaucoup, les balles anti-stress.
Hey! C'est vrai? Mais j'en ai une même sur mon bureau à l'instant même.
Absolument. Voilà. C'est un peu ce qui m'a inspiré, je vais t'avouer.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Bon.
Je me suis dit, je vais aller voir un petit peu l'histoire des balles anti-stress et vanter les vertus, en quelque sorte, des balles anti-stress parce que je les trouve négligées, je vais vous dire honnêtement.
Puis pour vrai, c'est le fun comme chose à taponner parce que je sais pas si vous êtes comme moi à jouer avec un stylo, ça fait du bruit. Mais une balle anti-stress, ça fait pas de bruit quand tu joues avec ça.
En anglais, on les appelle les stress balls.
Mm-hmm.
Je pense pas vous apprendre grand chose. En bon français, on va parler de balles anti-stress. Ce sont des petits objets qui, a priori, ils ont l'air tout à fait anodins, mais attention, ils ont quand même beaucoup de vertus, et je vais vous en parler tout à l'heure. On attribue l'invention de cette balle anti-stress moderne, celle qui est faite en mousse de polyuréthane compressible, à un Américain du nom d'Alex Carswell. Et d'après toi, en quelle année ça a été inventé, la stress ball moderne?
Moderne, ouais. J'ai envie de te dire, peut-être les années 70?
T'es pas loin, t'es pas très
loin.
Vrai? C'est quand même assez récent, 1988.
Oh, quand même.
Ouais, M. Carswell était un scénariste de télévision. Il aurait, je sais pas pourquoi,
il devait être stressé. Oui,
probablement. Bon.
Pour écrire des scripts, hein, ça va bien.
Exactement. Alors lui, il a créé cette première balle anti-stress en 1988, mais attention, le principe ou enfin le fonctionnement des balles anti-stress, ça date pas d'hier.
Ah oh, non?
Ben, pas comme la forme moderne,
ouais, non, ouais,
mais les Chinois de la dynastie Ming, entre le 14e et le 17e siècle, ont été les premiers à utiliser des boules qu'on appelle, c'était des boules métalliques, les boules de Bao Ding.
OK, je me demandais de t'en aller où avec ça.
D'origine chinoise. Alors, c'était des balles anti-stress qu'on manipulait avec les doigts pour faire passer la nervosité.
Tout à fait. OK. Hey, c'est une drôle de chronique, ça.
Ouais, les boules de Bowding. Alors, on pouvait pas évidemment les compresser avec les doigts. Je sais pas si on pouvait faire d'autres affaires, mais...
Non, mon Dieu.
OK. Mais ces boules-là,
d'origine anti-stress.
Anti-stress.
Oui, voilà.
Exactement. Donc, elles sont quand même vieilles, mais la version moderne est en train de s'étouffer. C'est pas des farces.
Ça va?
Ah, ça va oui. Passer?
Mais je m'attendais pas à ça ce matin, c'est pour ça. Là,
ben
c'est,
non, je comprends donc. Je comprends donc. Mais la version, donc, cette version moderne, elle date de 1988, mais la version, les ancêtres de cette boule anti-stress sont beaucoup plus vieilles que ça, donc 14e, entre le 14e et le 17e siècle. À quoi ça sert des balles anti-stress, d'après toi, là?
Mais j'imagine à relâcher la pression.
À relâcher, évidemment, réduire le stress et l'anxiété. Mm-hmm. Ça va de soi. Mais il y a plus que ça.
C'est peut-être aussi changer le mal de place. T'sais, si tu joues avec ta balle, ben, t'es peut-être pas, tu penses pas à ton stress.
Ça améliore la concentration. Ah. Également, deuxième chose, ça peut également contribuer à renforcer les muscles des mains.
Ah ben oui, ben certainement.
Les personnes, par exemple, qui ont, je sais pas moi, de l'arthrite, des choses mm-hmm. comme ça, hein, tu te sers de tes boules anti-stress pour faire, en principe, passer ton stress, mais également renforcer les muscles des doigts. L'amélioration de la circulation sanguine, c'est une autre bonne façon également d'utiliser ou une autre des bonnes applications des balles anti-stress.
Mais c'est vrai, ils nous demandent de faire ça des fois quand on donne du sang. De fermer la main, ouvrir la main, serrer, là, donc ça active, effectivement.
Voilà. Cinquième chose à quoi ça peut servir, ça peut aider à contrôler les émotions.
OK.
Les enfants, par exemple, qui sont un petit peu, comment je dirais ça, anxieux, ou encore des personnes qui sont en colère. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, plutôt que de frapper dans la face de ton voisin...
Tu lances la balle en pleine face.
Il y a ça, ou okay. encore tu la presses de façon un peu, comment je dirais ça, colérique,
oui.
en la regardant et en disant, une chance que ce soit ta face, parce que, my God, que t'en mangerais une.
Ça pourrait, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et finalement, ben, c'est pour leur polyvalence, hein, parce qu'on traîne ça dans un sac, et qu'on soit, par exemple, dans un cabinet de dentiste en train d'attendre, ou encore dans un cabinet de médecin, l'enfant est en attente, il sait pas trop quoi faire de ses doigts, tu comme prends la balle. Ça peut servir pour votre animal de compagnie, évidemment, pour peu que ça vous dérange pas qu'il morde dedans, puis qu'il
chouille. Mais ça peut servir à plein de choses, puis ce qui est bien avec ça, c'est que ça se transporte n'importe où. Tu sais, des fois, mettons, si t'es un peu stressé, puis tu fais du yoga pour te déstresser, bien, ton tapis à yoga, ton équipement, ça prend un peu de place, ta petite balle, bien, puis ça passe à l'aéroport.
Exactement.
Hein? Ça passe aux douanes.
Voilà, tout à fait. Et alors, il existe maintenant, évidemment, des balles anti-stress dans toute une gamme de formes, des animaux, des œufs, des balles de baseball. Il y en a en rouge, en bleu, il y en a multicolores. Bref, la prochaine fois que vous allez, comme moi, passer dans un dollar store ou encore dans un Toys R Us à côté des balles anti-stress, puis que vous allez dire, ouais, c'est des bébelles pour les enfants. Mm-hmm. Bien, attention, il y a quand même plus de vertus que vous pensez à ces fameuses petites balles anti-stress. Dans un tout petit instant, est-ce qu'on s'attaque à notre première entrevue?
Oui, certainement. Donc, on va s'entretenir avec Marc Lalonde qui reçoit un beau prix pour en fait l'ensemble de sa carrière et tout ce qu'il a fait pour la musique francophone.
Parfait. On lui parle dans un instant. Restez là.
Peut contenir des infos.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir, je dirais, un véritable pilier. Puis j'exagère pas, là. Véritable pilier de la francophonie musicale canadienne. C'est un passionné, c'est un bénévole infatigable. C'est un bâtisseur, on va dire, dans tous les sens du terme.
Oui, et vous le connaissez aussi, c'est la voix derrière Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Une émission qui roule sa bosse, en fait, depuis plus de 30 ans et qui fait rayonner les talents francophones d'un océan à l'autre. Et ça continue d'ailleurs, semaine après semaine, sur les ondes de nos différentes radios à l'Alliance des radios communautaires. En fait, à travers 15 stations communautaires d'un bout à l'autre du pays.
La raison pour laquelle on le reçoit aujourd'hui, c'est qu'il va recevoir quelque chose d'un peu particulier au cours des prochains jours, le prix bâtisseur Paul Demers, qui lui sera officiellement remis lors du gala célébration Trior le 27 mai. C'est une reconnaissance de son engagement dont on parle, un engagement remarquable envers la scène musicale franco-canadienne de l'Acadie à l'Ouest en passant par l'Ontario.
Et d'ailleurs, plusieurs artistes émergents disent de lui qu'il a été le premier à croire en leur musique, à leur donner une voix, un micro et aussi un espace pour exister et pour être entendu. Son impact, lui, c'est bien réel. Et aujourd'hui, on accueille Marc Lalonde, récipiendaire du prix Bâtisseur Paul Demers 2025. Bonjour Marc et surtout, félicitations.
Merci beaucoup pour cette présentation.
Bien, c'est vous qui l'avez fait, c'est votre parcours à vous. D'ailleurs, je voulais vous demander d'où vient cet attachement à la musique franco-canadienne? Êtes-vous un peu tombé dedans quand vous étiez jeune?
Non, ce qui arrive, c'est que j'ai commencé à faire de la télé communautaire à Rogers. Et on a été faire ce qu'on appelait à l'époque un remote, le tournage d'une soirée de carnaval à Castleman ou en Brun, je me souviens plus trop. Puis là, j'étais là au son, puis là, je regardais ça, puis j'entendais ça, des voix comme Vérine Duclair, comme Brillant Saint-Pierre et d'autres. Je me suis dit, d'où ça sort, ce talent-là? C'est incroyable. Donc, avec ça, ben là, j'ai demandé à Denis Labrèche, qui s'occupait de l'émission Coup d'œil à l'époque. J'ai dit, ben, moi, je pourrais peut-être faire des entrevues avec des artistes locaux et des artistes de Montréal, Boulin Pingouin et compagnie, d'autres ça. Puis oui, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, c'est même que j'ai découvert des artistes de la région, là, l'Outaouais, d'Ottawa, de Castleman, Embrun, tous ces coins-là. Puis, je suis devenu passionné au fil des ans.
Marc, est-ce que tu me permets que je te tutoie? Je vais quand même...
Oui.
Ben oui, parce qu'on se connaît quand même un petit peu. Moi, je suis arrivé à l'Arc du Canada en 2007. Marc Lalonde était déjà impliqué dans le domaine de la musique, ça fait que c'est dire. Hein? On dit que la radio mène à tout, mais dans ce cas-ci, c'est la télévision qui t'a amené à la radio. C'est un peu spécial. Comment ça a commencé, ça, cette émission, le Canrock dont on parlait tout à l'heure, Marc?
Ben, j'avais des amis, Anne-Marie Boivin et Claude Cardinal, qu'on se croisait de temps à autre. Puis on m'a dit, hey, ça ne te tenterait pas de venir participer à notre show de cassette de groupe de la région à CHUOFM. Donc, ça a commencé avec un show de cassette. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé au mois d'octobre, puis au mois de janvier, je me suis trouvé tout seul à continuer ce show-là. Qui s'appelait déjà Canra. Puis j'ai dit à la directrice de programmation, j'ai dit, ben, je peux-tu l'essayer pour un mois, voir si j'aime ça. Ça fait 30 ans. Ça fait 3 000 mois, je ne sais pas trop, 300 mois. Mais je suis resté, c'est resté. J'ai voulu faire ça pour un mois de temps. Puis je me suis fait prendre au jeu. J'ai adoré ça, j'ai aimé ça, le contact humain avec les artistes. C'est comme ça que c'est parti.
Et vous l'avez dit, ça fait justement 30 ans que vous avez cette émission-là, cette passion-là qui est Canrock. Quels sont les impacts que vous avez vus ou témoignés, en fait? Parce que quand on reçoit un prix hommage comme ça, c'est un peu pour souligner l'apport de ce qu'on a fait. Quel témoignage vous avez entendu de la part des artistes ou des gens autour de ce que Canrock a fait pour eux ou dans leur découverte musicale?
Moi, je veux dire, l'impact, le message le plus impact, le plus impact que j'ai reçu, c'est Robert Paquette. Parce que, à un moment donné, on jasait, puis je sais pas si c'est valable ce que je fais, tu sais, j'essaye de mon mieux. Robert Paquette me dit, c'est le fun, Marc, parce que à chaque fois que tu nous rencontres, tu nous fais des entrevues honnêtes et directes. Et on apprécie énormément ça, puis tu as beaucoup de respect. Garde le respect, tu vas aller loin.
Et voilà. Et j'imagine que c'est en grande partie ce qui te motive à poursuivre encore cette mission-là après une trentaine d'années. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un peu de gaz dans le moteur, comme on dit.
Oui, puis quand il y en a moins, ben il arrive des choses comme beau séjour, comme beau nectar. En Acadie, dernièrement, là, il y a une fille qui s'appelle le Moon Bay, qui s'appelle Kristen Martel, anglophone, ben francophone, mais surtout une carrière anglophone. Elle vient de sortir un album francophone de toute beauté, c'est alléchant, ça s'écoute super bien. Ben s'il y a encore des jeunes comme ça qui lancent des bijoux, ben tout ça bien continuer pour leur donner un coup de pouce, parce que sans ça, on veut dire, ils s'en vont dans une mare de musique anglophone, puis c'est comme ça qu'on les perd. Donc, en ayant quelqu'un qui les encourage, qui fait tourner le tune, même s'ils ne sont pas connus, ben, on fait sûr qu'il y a une relève franco-musicale canadienne.
après toutes ces années, à mettre justement la relève franco-canadienne de l'avant. Le 27 mai prochain, c'est vous qui sera mis de l'avant, justement, pour souligner l'apport et tout ce que vous avez fait pour la musique. Comment vous accueillez ce prix-là de l'APCM et comment on sent à l'approche d'un grand gala comme ça? On doit être un peu stressé. Est-ce qu'on a repassé le veston, la chemise?
Je dirais, comme j'ai dit hier à Franco-Presse, c'est un peu perplexe parce que oui, c'est le fun, c'est encourageant, j'ai mis ça, c'est une mosure de bonne claque dans le dos, mais c'est quand même gênant. Je sais pas pourquoi. C'est gênant parce que le regard est sur moi, mais le but de l'émission, c'est de donner un regard sur les artistes. Donc, mais c'est une méchante belle claque dans le dos, puis je l'apprécie beaucoup. Donc, imaginez, le soir même, ça va être terrible.
Ah oui, donc je comprends. Puis Marc, c'est un gars qui m'apparaît comme quelqu'un de très humble, qui est un peu discret dans une certaine mesure, mais qui a quand même fait de grandes choses là, pour les artistes, dans le sens où il a poussé des carrières. Et Marc, moi j'ai le goût de te demander, comme observateur justement de cette scène musicale franco-canadienne, écoute, depuis une trentaine d'années, c'est quoi les changements majeurs là, que tu as vus? Comment tu perçois tous les changements qui sont arrivés dans l'industrie musicale en francophonie canadienne en 2025? Il y en a du chemin qui s'est parcouru, là.
Oui, je veux dire, j'étais un des premiers à travailler sur une idée de base d'un petit gala qui reconnaîtrait les artistes de l'Ontario français. Ben, tu sais, le gala est devenu ce qui est devenu le gala des Prix Triomphe. Donc, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de... d'artistes qui se sont informés, qui se sont... qui ont étudié comment faire des bonnes tunes en studio pour se démocratiser l'enregistrement, pas que ça coûte des millions ou des mille, ben pas des millions, mais des mille dollars. Les artistes se sont démocratisés lors d'enregistrer des bonnes chansons, des bons albums. Donc ça, c'est une belle évolution qui s'est faite aussi. Et je dirais que des groupes qui ont influencé, comme il y a des groupes qui ont été influencés par Kif-Kif, Arzimoussaillon, Règlement 17, ben ces jeunes-là ont influencé d'autres jeunes qui aujourd'hui font de l'excellente musique. Je pense à Jolie, je pense à Céleste Lévy, je pense à bien d'autres. Là. Puis on a ouvert aussi l'oreille, à donner une chance aux sons qui sont différents, comme Mimi Obansawin. C'est il y a beaucoup, une belle essence d'autochtone dans sa musique. C'est rafraîchissant. Donc, ça évolue constamment, mais ce qui arrive avec, j'en parlais justement l'autre jour, suite à la peur d'être amalgamé aux États-Unis, ben on dit que la culture francophone, la culture québécoise est importante. Mais si on regarde comme il faut, puis on tend l'oreille 4 secondes, la culture francophone musicale, oui, est importante, mais elle se vit d'une petite mer à l'autre, d'un océan à l'autre. Et puis c'est pas juste au Québec. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui se développent dans les écoles. Parce que, par exemple, une chose que la PCM fait depuis longtemps, c'est faire des tournées scolaires où ce que des artistes établis ben vont démontrer leur art dans les écoles francophones en Ontario et même dans l'Ouest. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a un petit jeune qui va capoter. « Moi, j'aime ça, je suis pas pire à la guitare, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais me rendre jusque-là. » Donc, il y a beaucoup d'outils qui se développent en 2025. Et puis, il faut juste que les radios ouvrent leur oreille à ces jeunes-là et qu'ils leur donnent une place. Je pense que c'est ça l'important.
Et en terminant, Marc Lalonde, vous l'avez un peu mentionné là, justement en répondant à la question, mais l'avenir de la scène musicale francophone au Canada, elle a l'air de quoi selon vous? On a un avenir positif? Comment ça se dessine?
Ben moi, je trouve que ça se dessine quand même assez intéressant. Et puis, il y a beaucoup d'influences. Comme il y a des jeunes qui sont en train de pousser, il y a des jeunes qui sont en train de faire des premiers albums, des premiers EP, et qui nous arrivent avec des propositions musicales fort intéressantes, différentes de ce qu'on est habitué d'entendre, mais quand même intéressant. Et puis, il faut juste leur faire une place. Puis, encore là, je reviens à la même chose. Il faut que les radios tournent ces jeunes-là pour que les gens à la maison se disent « Hey, le jeune n'est pas pire, je pense va essayer de me pogner son album ou quoi que ce soit. » Donc, faut donner une place à ces gens-là. Moi, avec les outils que j'ai, très peu de moyens, pas une scène dans les poches, je pense que j'ai réussi à faire un peu ma part, mais il faut que tout le monde fasse leur part pour que on puisse garder une culture franco-canadienne vivante.
Ah ben c'est bien dit ça. Franchement, c'est une belle conclusion. Il va recevoir, et c'est pas étonnant, vous l'avez entendu parler de la musique avec l'amour dans le cœur, comme on dit. Il va recevoir le prix bâtisseur Paul Demers à l'occasion du gala célébration Trior de la PCM. C'est le 27 mai prochain. Marc Lalonde, amateur de musique entre les amateurs de musique, mais aussi animateur, c'est là où je voulais en venir, de l'émission Canrock. Merci Marc, puis félicitations encore une fois.
Ben merci, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Puis, si vous êtes dans la région d'Ottawa le mardi 27, ben venez faire un tour au Rainbow Bistro, puis on va s'amuser.
Peut contenir des infos.
Le 18 mai dernier, il y a quelques jours à peine, c'était la Journée internationale des musées. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça.
Oui, bien, il y a des journées internationales pour un peu tout, mais évidemment, les musées en méritent une.
Et Marianne Despelteau, qui est journaliste à Franco-Presse, qu'on a déjà reçue d'ailleurs dans cette émission-ci, elle s'est penchée sur l'état de santé de nos musées.
Oui, on a regardé entre autres le financement, le recrutement des bénévoles et aussi la reconnaissance et l'appui de la part des gouvernements, entre autres. Marianne aborde dans un article qui est intitulé « Crainte d'un point de non-retour pour les petits musées au Canada » qui est publié sur francopresse.ca. Bien, on parle en fait de plusieurs défis auxquels font face les musées au pays.
Alors, de façon générale, et c'est la grande question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, comment se portent nos musées à travers le pays, les petits et les grands, mais particulièrement les petits? Et on va essayer de brosser un tableau d'ensemble avec elle. Elle est avec nous au bout du fil. Marianne Despelteau, bienvenue à Peut contenir des infos.
Merci, bonjour.
Marianne, la grande question moi, que j'aurais le goût de poser d'abord en commençant, de façon générale, là, comment vont nos musées un petit peu partout à travers le pays si on devait brosser justement une espèce de tableau d'ensemble?
La réponse simple, c'est pas très bien. Dans mon article, là, vous l'avez dit, je parle des plus petits musées, mais même les musées nationaux rament assez fort. Il y a des musées, des galeries communautaires qui ont déjà fermé leurs portes ces dernières années, d'autres qui sont à risque de le faire dans les trois prochaines années, selon des représentants du milieu. On en a parlé pendant la pandémie de COVID-19. Les arts et la culture, de manière générale, ont été durement touchés. Puis les musées, ben c'est sûr que ça a été difficile. Il y avait moins de visites, il y avait moins de tourisme. Puis la pandémie, ça peut paraître loin dans nos têtes, mais les musées n'ont pas tous retrouvé leurs chiffres d'affaires d'avant la crise sanitaire. Donc, quand on ajoute l'inflation, les vestiges de la pandémie, surtout financièrement, les musées vont généralement pas très bien.
Et la situation, est-ce qu'elle est semblable partout au pays? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est pire? On parlait là, bon, évidemment, de la situation des plus petits musées dans votre article, mais comment ça se passe là, à travers le Canada?
La situation est généralisée. Il existe une association nationale des musées canadiens. Donc, eux, ils parlent beaucoup aux gens sur le terrain, même des études aussi pour leur compte. Donc, on a une idée du portrait général, si on veut. Il y a quand même des variations, notamment entre les provinces et les territoires, parce que les gouvernements provinciaux, les gouvernements municipaux aussi, n'ont pas tous les mêmes programmes, ne financent pas tous les musées à la même hauteur. Un exemple, c'est l'écomusée de Hearst, dans le nord de l'Ontario, qui a pu s'installer dans une maison patrimoniale donnée par la ville de Hearst. Donc, c'est un exemple très concret où on se fie à la bonne volonté, là, si on veut, de la municipalité. Ça va être plus facile aussi pour les musées provinciaux, donc ceux qui sont reconnus officiellement comme un musée de la province, parce que ça devient tout simplement plus facile d'accéder à des subventions. Mais ça n'empêche pas qu'on retrouve les mêmes défis un peu partout. Là, il y a quand même des enjeux qui reviennent souvent.
Marianne, son point, justement, là, ces principaux défis là, qui reviennent de façon générale un peu partout à travers le pays, quels sont-ils ces défis?
Donc, je mentionnais la pandémie tout à l'heure. Donc, certains musées n'ont pas retrouvé les visites, le nombre de visites d'avant. Donc, ça demeure un défi. Ensuite, on a le financement public. Je parlais de l'inflation tout à l'heure. Là, c'est un enjeu bien réel pour les musées. Il y a aussi une certaine augmentation des responsabilités. La technologie n'est plus la même qu'il y a 20-30 ans. Donc, il y a des coûts additionnels pour ça. Si on veut moderniser notre musée, il y a des responsabilités écologiques qui n'existaient pas avant. Il y a des responsabilités en matière aussi de réconciliation avec les Autochtones. Donc, de nouveaux défis là qui finalement se traduisent dans une augmentation des coûts. Puis quand le financement n'est pas suffisant, ça crée une sorte de cercle vicieux. C'est les termes employés là par certains acteurs du milieu, parce qu'avec un manque de financement, ben ça en contraint plusieurs à fermer l'hiver. Puis ça, ben ça diminue le revenu annuel, parce que ça fait qu'on a 6 mois de l'année où on n'a pas de visite finalement. Donc c'est ce cercle vicieux là de manque de revenus. Puis chez les plus petits musées, écoutez, on part parfois de très loin là. Il y a un exemple en Nouvelle-Écosse, la vieille maison acadienne, qui a déjà été un musée par le passé, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Puis la vieille maison tente d'obtenir une accréditation pour devenir officiellement un musée, notamment parce que ça faciliterait l'accès au financement. Le pépin, c'est que pour avoir cette accréditation, ben, il faut répondre à certains critères. Puis la vieille maison ne répond pas encore à tous ces critères. Entre autres, il n'y a pas encore de toilettes dans la bâtisse.
Ouais.
Donc difficile d'obtenir son accréditation. Un autre exemple, là, à quelques kilomètres au sud, il y a le musée des Acadiens de Pomico. Puis ça, la directrice générale, Bernice D'Entremont, elle me disait que son rêve, là, c'est d'installer un ascenseur ou une chaise montante, parce qu'il y a un deuxième étage où on retrouve un centre de recherche qui est une véritable mine d'or d'archives, de documentation généalogique. Sauf qu'un ascenseur, ben ça coûte très cher. Donc, c'est le genre de défi qu'on entend sur le terrain. Puis bien sûr, des défis de recrutement, de rétention du personnel aussi.
Et dans votre article, vous parlez notamment, là, il y a 560 musées au pays qui fonctionnent exclusivement avec des bénévoles, et c'est selon des chiffres de Statistique Canada. C'est ce que j'apprécie d'ailleurs beaucoup dans cet article-là, c'est que vous faites vraiment un tour complet du Canada. Mmh. Vous passez du Yukon, de la Nouvelle-Écosse, dans l'Ontario, évidemment. Comment on réussit à faire tourner autant d'institutions muséales uniquement avec des bénévoles? Et comment on fait pour garder cette pérennité-là? C'est quasiment pratiquement un miracle.
Donc, c'est souvent des gens qui font beaucoup avec très peu. Puis là, la situation des bénévoles, vous l'avez dit, là, c'est plus de 500 musées qui fonctionnent exclusivement avec des bénévoles. Et le grand souci en ce moment, c'est qu'on parle d'un épuisement des bénévoles, qui est un problème généralisé au Canada selon l'Association des musées canadiens. Ça peut mener à la fermeture d'un musée. Je vous donne un exemple. Je parlais tout à l'heure de la vieille maison acadienne en Nouvelle-Écosse qui a déjà été un musée.
Oui.
Donc, elle l'a été de 1958 à 2001. Là, ce qui s'est passé, en 2001, elle a été abandonnée pendant 20 ans. Ses propriétaires vivent aux États-Unis, ne s'en occupaient pas vraiment. Puis là est arrivée une société, la Société Vieille Maison, qui est un groupe sans but lucratif, qui a commencé à s'en occuper. Puis la société a demandé comment ça se fait que la maison a été abandonnée en 2001. Et la réponse qu'elle a obtenue, c'était l'épuisement des bénévoles à l'époque. Donc, on est plus de 20 ans plus tard, on parle encore d'épuisement de bénévoles. Et puis cette dépendance aux bénévoles, ça fragilise énormément les musées parce qu'un bénévole, normalement, ça quitte quand il veut. Donc pour la rétention, c'est vraiment un problème.
Marianne, moi ce que j'entends, là, c'est que j'ai l'impression qu'on pèle dans la cour des musées certaines responsabilités ou certaines obligations. Tu sais, on parlait par exemple de mise à niveau technologique, d'installer des ascenseurs, des choses comme ça. Mais en même temps qu'on leur pèle des responsabilités, on pèle pas l'argent qui vient avec. Là, tu sais. Ça serait quoi là, les mesures les plus urgentes qu'on devrait prendre de la part des gouvernements, par exemple les communautés, pour pallier justement à ces manques de personnel et tout ça? Est-ce que les gens du milieu ont eux-mêmes des idées ou?
Oui, il y a une demande qui est assez unanime dans le milieu, c'est la modernisation de la politique nationale des musées. Sa dernière mise à jour remonte à 1990. Les choses ont beaucoup changé depuis.
Ouais.
Il y a eu des consultations par le fédéral, par Ottawa, en 2022-2023, qui étaient des consultations vraiment sur le renouvellement de cette politique muséale nationale. Puis on a parlé de la très forte dépendance du secteur envers les bénévoles dans ces consultations-là. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de modernisation de cette politique nationale. Donc, les consultations ont été menées. Il faudra attendre la nouvelle politique. Ultimement, ce que j'entends, c'est que ça revient toujours au financement. On demande aussi là, une modernisation du financement public. Quand on parle de personnel, on parle de salaire. Je le disais tout à l'heure, là, les bénévoles, c'est une chose, mais c'est très difficile d'attirer la main-d'œuvre quand on n'a pas les moyens d'offrir des salaires compétitifs. Il y a Sylvie Binette, qui est présidente de l'Association des musées du Yukon, qui me disait, par exemple, un directeur exécutif payé 21$ de l'heure 5 mois par année.
Ouais.
Ben, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui veut faire ça. Puis c'est pas évident non plus de trouver quelqu'un qui a les qualifications et qui veut faire ça. Souvent, les gens sont sous-payés là, par rapport aux responsabilités qu'ils ont. Donc, il y a plusieurs musées quand même. Là, vous me demandez des mesures urgentes à prendre. Il y a quand même des musées qui se fient au programme d'été pour les étudiants. Je pense notamment à Jeunesse Canada au travail, qui est un programme du gouvernement fédéral qui facilite l'embauche d'étudiants l'été. Mais là, on revient un petit peu au même problème parce qu'on parle de la saison estivale. Ça ne règle pas vraiment le problème pour l'hiver.
Et d'ailleurs, vous venez d'en parler, il y a les aspects financiers, les aspects humains dans les problématiques ou ce qui est plus difficile pour nos musées. Mais il y a d'autres impacts qui sont autres et potentiels aussi pour la fermeture des musées. On parle, entre autres, d'histoire, d'artefacts qu'on peut perdre, l'accès au public à tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est plus gros que simplement aussi financier aussi.
Ouais, moi, on me parlait beaucoup de la mémoire collective, hein, de la transmission des savoirs. On peut peut-être prendre l'exemple du musée du tapis Hooker en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un art qui existe depuis plus d'un siècle, là, mais dont les pratiquants se font très rares aujourd'hui. Ben, le musée, c'est un endroit où on peut voir ces tapis, où on peut en apprendre plus sur leur histoire, sur leur importance symbolique et culturelle. La vieille maison acadienne est un autre exemple. Elle date de 1796. Elle est considérée comme la plus vieille de son genre. Là. C'est l'exemple le mieux préservé d'une habitation acadienne post-exil au Canada. C'est un gros morceau de l'histoire, de la mémoire collective qu'on a failli perdre pendant 20 ans, comme je le racontais plus tôt. Donc, quand un musée disparaît, le savoir qui s'y trouve, les expériences qu'on peut vivre dans ces musées, tout ça, ça disparaît avec aussi. Puis c'est vraiment ça qui inquiète les gens du secteur.
Ouais, Marianne, en guise de conclusion, parce que le temps file, j'ai pas l'impression d'entendre une histoire d'horreur, mais à tout le moins un drame, là, un drame national qui est en train de se produire dans nos institutions muséales. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'optimisme, on va dire, une petite lumière au bout du tunnel dans tout ça?
Il y en a un, puis c'est beaucoup lié à la relation actuelle entre le Canada et les États-Unis. Premièrement, parce qu'on s'attend à une montée potentielle du tourisme au Canada, donc des touristes qui normalement seraient allés aux États-Unis, mais qui vont peut-être privilégier le Canada, ça peut donner un coup de main au musée. Puis l'accent aussi qui est mis sur la souveraineté par le gouvernement fédéral et par les gouvernements provinciaux d'ailleurs. Donc, il y a un espoir que les gouvernements réalisent le financement des musées à cause de cela, justement, parce qu'on sert beaucoup des arts et de la culture pour se différencier de nos voisins au sud. C'est ce qui porte quelques experts à penser, là, justement, que les investissements en culture vont être réalisés. Historiquement, ça a été le cas. Historiquement, là, c'est un phénomène étudié. Les musées font partie des efforts de guerre. Ils mettent l'accent sur l'identité canadienne. Donc, ils ont un rôle politique et diplomatique très important. Et le gouvernement fédéral canadien a eu tendance à investir en culture quand ça allait mal. Donc, il pourrait y avoir une révision. C'est là où on voit un petit peu d'optimisme là, pour les musées canadiens.
Elle signe un texte qui a pour titre « Crainte d'un point de non-retour pour les petits musées au Canada » et s'est penchée justement au chevet de nos musées, particulièrement les plus petits d'entre eux, pour voir comment était la situation. Elle a fait ce travail en marge de la Journée internationale des musées. On l'a dit tantôt, ça a eu lieu le 18 mai dernier. Marianne Despelleteau, journaliste chez Franco Presse. Vous allez lire ce texte-là dans francopresse.ca. Merci beaucoup, Marianne.
Merci à vous.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
Et nous voici rendus à notre quatrième et dernier bloc de l'émission.
J'ai toujours cette espèce de petit jingle musical au quiz.
Ça, c'est quoi ça?
C'est The Price is Right.
The Price is Right. Come on down!
J'ai juste pas l'aussi long micro que lui, mais quand même, je suis aussi enthousiaste.
De tester mes connaissances et de m'entraîner vers les bas-fonds de mes, de mes connaissances, parce que franchement, le New Country, je ne connais pas grand-chose là-dedans.
Ben en fait, je tiens à ce que nos performances soient égales au quiz. Fait qu'on va voir, peut-être qu'on va faire la même chose, mais je suis sûr que tu vas quand même bien t'en sortir, parce que c'est de la culture générale.
Oui.
T'as une bonne culture générale.
J'essaye.
Je suis quand même confiante pour toi.
OK.
T'es prêt?
Oui, je suis prêt.
Parfait. Donc, première question, puis je commence, comme je t'ai dit, là, je vais faire un...
T'as combien de questions pour le fun?
J'en ai 10.
T'en as 10?
Puis je vais te donner confiance au départ. Je suis allée un petit peu plus facile.
OK.
Je suis allée dans ton note sur New Country pour commencer.
Okay.
Pour te rendre à l'aise. Je suis quand même fine.
C'est quoi, attends, juste en passant, c'est quoi la différence entre New Country puis Country traditionnel? C'est dans l'époque, c'est dans la sonorité, je pense?
Il y a la sonorité qui était peut-être un peu plus pop aussi, un peu plus de ce côté-là, c'est puis ça. Les thèmes aussi. C'est un petit peu moins les instruments, il y a un peu moins de banjo, il y en a, mais ça change un peu aussi dans l'instrumentation, dans la musique. Les paroles, les thèmes restent toujours sensiblement les mêmes, là, mais c'est un peu ça.
OK.
T'es prêt?
Oui, je suis prêt.
Première question. Quelle artiste canadienne a exposé sur la scène du New Country avec son album Come On Over en 1997? J'ai un choix de réponse. Shania Twain, Faith Hill, Miranda Lambert ou Carrie Underwood?
Je pense que c'est Shania Twain.
Bravo, pas de réponse.
OK.
Tu vois, on commence tranquillement.
C'est pas pire. Tranquillement. Je sens qu'il va y avoir comme un crescendo.
C'est possible.
OK.
Moi, je te laisse vivre dans le mystère, Simon.
Parfait.
Je vais monter ton anxiété.
Pas pire. Déjà... Je suis pas dans le négatif.
Non, non, c'est ça, mais c'est important de prendre soin de son co-animateur.
Okay.
Faut faire attention.
Ouais, c'est ça.
Question numéro 2. Quelle émission de télé a lancé la carrière de Carrie Underwood, qui est une grande figure de la musique New Country? Est-ce que c'est The Voice, Nashville Star, American Idol ou America's Got Talent?
J'irais peut-être pour American Idol.
C'est une bonne réponse.
Oh, oui, hein?
Oui, bonne réponse. Okay. American Idol, c'était dans les premières, là, je pense 2004 ou 2005.
C'est ça, j'essayais de me placer un peu dans l'histoire, là, puis tout ça. OK,
ouais. Voilà. Mais yeah, ça va bien, là, je sais pas.
Ben, sais-tu quoi? Parce que je me disais, pour que ça matche, The Voice, je voyais pas ça là.
C'est un peu trop récent.
America's Got Talent, je voyais pas ça là non plus. Fait que j'y étais beaucoup par déduction, mais ça a payé.
Oui, oui, tout à fait.
Okay.
L'élimination est très bonne. Hein?
Bon.
Un à la fois. Troisième question. Quel artiste New Country est connu pour mélanger hip-hop et country dans des hits comme Cruise? Est-ce que c'est Luke Bryan, Jason Aldean, Florida Georgia Line ou Morgan Wallen? Et mon Dieu, t'as un beau visage en ce moment.
Là, si j'étais capable de me transformer en quelque chose, ça serait en point d'interrogation parce que franchement... Là,
t'en as un gros dans le visage.
Je vais dire Florida, je ne sais pas trop.
Bonne réponse.
Ah oui, c'est vrai?
Florida Georgia Line, oui, okay. Tout à fait.
Et là,
bonne réponse,
vraiment...
c'est un mélange. Là.
Ah là, j'ai vraiment, mais vraiment été long shot. Là.
T'es chanceux, t'es comme un petit peu, comme peut-être la chance du débutant, du New Country.
Ça se peut. Je sais pas.
On va voir.
Il y a peut-être quelque chose sur mon épaule qui m'accompagne. Merci.
Ouais, c'est ça. 3-3 jusqu'à maintenant, ça va bien. Quatrième question. Quel est le nom de la ville américaine, celui-là tu devrais l'avoir aussi, considérée comme la capitale mondiale du country? Est-ce que c'est Austin, Memphis, Nashville ou Dallas?
Bon, Nashville.
Oui, voilà, bonne réponse. Maintenant, cinquième question. Lainey Wilson a remporté le prix de l'artiste de l'année 2025 au Country Music Awards cette année. Quel est le nom de son titre qui l'a révélé? Est-ce que c'est Things a Man Ought to Know, Watermelon Moonshine, Heart Like a Truck ou Wildflower and Wild Horses?
Oh, wow! Là, vraiment, si je le lis, là, ça va vraiment être comme prendre des dés, lancer des dés, puis y aller avec un chiffre au hasard. Je vais dire... Tu peux me répéter Watermelon?
Moonshine. Watermelon Moonshine.
Watermelon... Ben, ça sonne... J'ai l'impression que c'est ça.
C'est pas la bonne réponse.
Non?
Mais c'est une grosse chanson de Lainey Wilson.
Okay,
C'était Heart Like a Truck.
Ah, ouais, hein?
C'est une balade un peu country avec qui raconte l'amour. C'est une belle chanson. Heart Like a Truck.
Okay. C'est vraiment le cœur comme un camion?
Oui, 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 c'est ça. Ben, qui s'est promené, qui s'est fait traîner dans la boue.
Oui, OK.
C'est un peu toutes les allusions comme ça.
Je comprends les références.
Ouais. Petite parenthèse, c'est mon artiste préféré du moment. Lainey Wilson.
OK.
Quel grand artiste country, vraiment.
Super. Est-ce qu'elle est parente avec la famille Wilson, des Brian Wilson, là, des Wilson?
J'aurais tendance à dire que non, mais je ne suis pas certaine à 100%. J'ai pas fait ma recherche de son arbre généalogique au complet, là, mais peut-être, parce qu'en même temps, c'est quand même, elle vient du Sud. C'est vraiment une grande artiste country là en ce moment.
Okay.
Question numéro 6. Originaire d'Alabama, cet artiste au style brut et énergétique s'est fait remarquer avec son titre comme 2020, You Look Like You Love Me, en duo avec Riley Green. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est Priscilla Block, Megan Moroney, Ella Langley ou Ashley McBride?
Wow, OK. J'avais comme quelque chose qui m'a passé dans la tête.
Oui, je pense.
J'avais l'impression, mais non, non, là non plus. Franchement, je suis en train de me faire démonter, mais c'est pas grave. non, mais c'est correct. C'est correct. C'est bon parce que. Ben non, mais c'est bon, mais c'est correct en même temps parce qu'on apprend. Il y a comme un apprentissage.
Ben oui, ben c'est ça.
J'irais peut-être pour Ashley McBride.
Non, malheureusement. Non? C'est Ella Langley.
Ella Langley.
Oui, qui est mon artiste numéro 2 préféré. Tu sais, c'est okay. Toujours un top 3. Là.
OK.
Fait que, voilà, numéro 2. Très bonne artiste aussi qui a gagné Révélation de l'année au Country Music Award cette année. Vraiment, toute une artiste.
Est-ce que je me trompe ou je dis que le New Country, j'ai comme l'impression que les femmes se taillent une belle place de choix dans ce style musical-là? Hein?
T'as raison, de plus en plus, en fait. Puis on a connu beaucoup d'artistes qui étaient plus masculins, mais de plus en plus, les femmes font leur place et ont des grandes carrières. Puis c'est elles qui remportent finalement les grands prix aussi en bout de ligne lors des galas. Là. Fait que non, c'est une vraie bonne impression que t'as là.
Ben c'est ça, parce qu'à l'époque, je me souviens des gars comme Garth Brooks, Billy Ray Cyrus et compagnie. Puis il me semble qu'ils passaient pas la gratte, mais quasiment, là, tu sais, le monde en avait juste pour eux autres. Puis à un moment donné, quand il a commencé à voir Underwood, là, puis Carrie Underwood, Shania Twain et toutes ces femmes-là, on dirait que ça a comme poussé. Puis aujourd'hui, là, tu me parles de femmes, puis ils ont l'air, ça marche bien leur affaire, tant mieux.
Oui, tout à fait. Puis c'est des bons succès, puis tu as raison de dire que Carrie Underwood puis Shania Twain, on peut tracer la voie de tout ça. Bien, Shania Twain, en premier, on s'entend, mais ensuite Carrie Underwood, puis là, maintenant, des artistes qui émergent un peu comme ça, des petites villes aussi, de petites municipalités. Septième question, t'es prêt? Morgan Wallen est l'un des plus gros vendeurs de disques country récents. Quel est le titre de son méga hit de 2023 qui est devenu viral sur TikTok? Est-ce que c'est Whiskey Glasses, Wasted on You, Stand in My Boots ou Last Night?
Wow! Parce que là, tu mets, comment je dirais ça, tu mets ensemble deux affaires qui me sont totalement inconnues ou à peu près, TikTok.
Oui.
Auquel je dois avoir consacré probablement.
J'ai pas pensé au clash de génération.
Non, mais c'est pas grave. J'en ai regardé un petit peu, mais tu sais, je suis comme. J'ai peut-être consacré 2 minutes de mon existence à TikTok. C'est pour te dire. Là,
ben, c'est correct. C'est 2 minutes de plus que certaines personnes.
Mais tu sais, des fois, il faut que tu regardes pour te faire une tête. Puis j'ai fait comme, bah, sais-tu quoi, je vais pas passer ma journée là-dessus. Ça fait que. Puis là, en plus du New Country, tu peux me répéter les titres, là? Parce que...
Oui, il n'y a pas de problème. Tu as le choix entre Whiskey Glasses, Wasted on You, Sand in My Boots ou Last Night?
Je vais dire Wasted on You, mettons.
Ah, oh, mauvaise réponse.
Encore, hein?
Mais c'était Last Night. Mais quand même, okay. Wasted on You est l'un des très gros succès aussi de Morgan Wallen. Je ne l'ai pas fait facile.
Ben non, ben je comprends donc, mais c'est pas grave. C'est la même affaire que moi la semaine passée.
On apprend.
Ben, on apprend. Puis c'est peut-être, tu sais, je veux dire, c'est peut-être plus dans tes cordes, puis c'est peut-être moins dans les miennes.
Oui, oui, c'est ça.
Puis c'est pas un dénominateur commun nécessairement. Même mon affaire de peinture la semaine passée.
Non, c'est
pas,
c'est ça.
Pas tout le monde qui traite peinture. Je traite pas nécessairement peinture, c'est pas ça que je veux dire, mais comme on n'est pas tous à la même place. Puis le New Country, ben j'en apprends là, quand même. Je suis surtout surpris quand tu me dis que ça a été un gros succès sur TikTok. T'sais, j'avais l'impression, quand les quelques fois que je suis tombé sur TikTok, j'avais tout le temps l'impression que c'était comme juste de la musique, soit du hip-hop ou des affaires un peu plus...
Mais des fois, il y a des trends, des tendances virales.
Ah, OK, c'est ça.
Puis, je sais pas, exemple, c'est des wedding proposals où tu t'en vas au mariage, peu importe, puis c'est la chanson en trame de fond. Fait que là, plusieurs personnes reproduisent cette espèce de trend-là et ça devient populaire. Et c'est comme ça que la chanson gagne en popularité.
Prend du buzz.
Oui, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai consacré 2 semaines à TikTok dans ma vie. C'était au début de la pandémie.
OK.
Et ça suffit. J'ai encore des chansons de TikTok de pris dans la tête depuis cette époque-là. Fait qu'on essaye de s'en sortir.
C'est pas pire parce que ça joue quand même. T'es en train de me dire que ça joue quand même, comment je dirais ça, c'est un élément clé dans la réussite d'une chanson maintenant en 2025.
Oui, ça peut aider énormément. Okay, puis si tu fais jouer ta chanson sur TikTok, puis en plus, il y a un trend qui est associé à ça, bien là, ça peut juste être gagnant.
Ça peut
aider, mais peut-être. Des découvertes musicales via TikTok, ça existe.
Okay.
8e question, il en reste 3 inclusivement avec celle-là. En 2023, cet artiste à la voix puissante a lancé une reprise de Tracy Chapman, Fast Car, qui a cartonné dans les palmarès. Qui est-ce? Est-ce que c'est Hardy, Zach Bryan, Luke Combs ou Riley Green?
Je ne sais pas, mais je connais Fast Car de Tracy Chapman, absolument. Là. Je dirais le deuxième, là, comment il s'appelle, Tracy...
Zach Bryan?
Zach Bryan, mettons.
Mauvaise réponse. Ah, non, pas loin, c'était C. C'est Luke Combs. Mon Dieu, je me rends compte que souvent, mes choix de réponse, c'est C. C'est drôle, en tout cas. On verra. Voilà. Donc, Luke Combs qui a repris, puis vraiment, quelle chanson incroyable, qui a redonné un envol à cette chanson-là. Là.
Mais il me semble l'avoir entendu même à la radio, cette version-là. Oui,
certainement.
Oui, oui,
puis il l'a fait en spectacle live sur scène avec Tracy Chapman.
Ah oui, hein?
Ça faisait des années qu'il n'était pas monté sur scène, puis il a réussi à la faire monter. Ça a été tout un moment. Tu peux aller voir ça sur Internet.
OK, là, mais ça me dit quoi, là? J'ignorais totalement celui qui en était l'interprète, mais la reprise, là, j'ai déjà entendu ça. OK.
Oui, très bon artiste. Neuvième question. Le style de Jelly Roll mêle le country, le rap et le rock. Et quel est le titre de sa chanson qui a marqué les Country Music Awards en 2003? Est-ce que c'est Save Me, Son of a Sinner, I Need a Favor ou Need a Boat?
T'as mis beaucoup, je trouve, l'accent sur Son of the Sinner, puis je vais prendre ça.
C'est pas celui-là, mais c'est parce que je voulais être sûre de ne pas faire de lapsus, hein,
okay.
Pour faire attention dans nos prononciations des fois, mais non, c'est I Need a Favor.
Ah, ben OK.
Très bonne chanson que je t'invite aussi à aller écouter. Et en terminant, dixième question, Zach Bryan, on en a parlé un peu dans le palmarès, est connu pour son style folk country introspectif. Donc, il parle beaucoup de lui, de sa vie, de ce qu'il fait. Quel est le titre de son album acclamé par la critique en 2002? Est-ce que c'est American Heartbreak, Diane, Something in the Orange ou Burn, Burn, Burn?
Burn, Burn, Burn.
Mauvaise réponse.
Mauvaise réponse. Ben...
C'était American Heartbreak.
Ben, coudonc.
Hein?
Ben, coudonc. J'ai fait 4 bonnes réponses sur 10. C'est quand même pas pire.
Si on est égal!
Si j'étais à l'école secondaire, j'irais en rattrapage.
Ah oh oui, puis on n'aurait pas le cadeau de fin d'année si t'as des bonnes notes. Parce que...
4 sur 10, là, 40 % là, pas fort, là, mais en même temps, j'ai appris bien des affaires.
Oui.
J'ai appris, entre autres, le nom du gars qui chantait la reprise de Tracy Chapman. Là,
le Combs.
Oui.
Mais ça va te faire de la belle musique. Pour vrai, du New Country, là, c'est de la musique idéale pour ouvrir les fenêtres l'été, faire de la voiture puis se promener.
T'as raison.
Honnêtement, puis si vous avez la chance de vivre dans un endroit où il y a de l'air salin, là, c'est encore mieux. Parce qu'on dirait que l'air salin accompagne le country, c'est incroyable. Fait sur Nouveau-Brunswick, là, j'étais allée là, l'année passée, l'été passé, puis c'était incroyable. Avec du country, ça va très bien.
Ben alors, ben bravo, merci de nous avoir appris tout ça à propos du New Country.
Ben, ça me fait plaisir. Je sais pas, je te dis bravo, Simon, mais je suis fière de ta participation.
Moi, je me dis pas bravo, mais c'est ça. L'important, c'est de participer. C'est ça l'important. Tu sais, je disais ça quand on était jeune, on allait jouer dans les tournois de hockey, puis disait, là, c'est pas grave, je donne pas. En autant que tu participes. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai participé. J'ai mis en application ce que j'ai appris dans mon jeune temps. Si tu peux, je te dis.
T'as pris un bon perdant.
C'est correct de même. Allez, on passe une bonne semaine.
Ah oui, bonne semaine à toi aussi.
Salut, on se retrouve la semaine prochaine.